BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, un peu plus de 19h, on est de retour. Deuxième heure de Good Evening Business en direct jusqu'à 20h. Dans l'actualité ce soir, cette discussion, cette négociation qui était censée être la dernière sur l'emploi des seniors entre les partenaires sociaux. Elle a débuté hier matin à 9h et au moment où je vous parle, 19h03, elle se poursuit toujours au siège du MEDEF. On va voir ça avec Caroline Morisseau dans un instant. On va reparler d'Atos jusqu'à 20h parce que le groupe, vous le savez, a annoncé ce matin son plan de refinancement et puis confirmation que l'État va se mêler de la partie pour sécuriser ce qu'on appelle les actifs hautement stratégiques. On verra ça avec Mathieu Pechberti, puis on parlera tous avec nos experts qui arrivent bien sûr dans un quart d'heure. Qui sera avec nous? Bruno Coquet va revenir, Jean-Marc Sylvestre pour Atlantico sera là et Frédéric Boccara pour les économistes atterrés. Tout ça promet un débat haut en couleur. Soyez les bienvenus, donc on est ensemble jusqu'à 20h. Bonne soirée.
Votre rendez-vous avec Sage. Sage. La gestion intelligente qui réinvente la finance.
Good Evening Business, le journal.
Donc, ça n'est toujours pas réglé ce soir. Bonsoir Caroline Morisseau. Les partenaires sociaux qu'on commençait à discuter hier matin au siège du MEDEF de l'emploi des seniors. Il y a eu des interruptions, il y a eu des pauses, mais ce soir, on y est toujours. Qu'est-ce qui bloque exactement, Caroline ?
Tout bloque, à peu près tout bloque en fait. Les syndicats dénoncent toujours un accord totalement déséquilibré avec plus de droits pour les employeurs et rien pour les salariés. En fait, les organisations patronales campent sur une position très ferme. Elles refusent de lâcher quoi que ce soit. Elles s'obstinent toujours à vouloir mettre en place, vous savez, leur fameux CDI senior, ouais, qui a été rebaptisé, qui ne sera qu'à titre expérimental pour 5 ans, mais qui repose toujours sur le même principe. C'est un contrat qui leur permettrait d'employer un demandeur d'emploi de plus de 60 ans, mais de s'en séparer une fois sa retraite à taux plein atteinte, qui est une ligne rouge pour les syndicats. Derrière, autre sujet qui fâche les syndicats, le patronat exige qu'un salarié qui a fait une reconversion professionnelle soit dans l'obligation de démissionner de l'entreprise à l'issue de sa formation. Ça aussi, c'est un problème pour les syndicats. Et derrière, en face, les syndicats n'arrivent pas à obtenir de contrepartie, n'arrivent pas à obtenir quoi que ce soit. Il n'y a à ce stade pas une seule de leurs 10 propositions communes qui a été retenue dans l'accord. Du coup, le ton monte, évidemment. Les syndicats sont de plus en plus énervés. Certains commencent même à se demander si finalement le patronat veut vraiment aller au bout de cette négociation ou s'il n'est pas en train de refuser en fait de ne pas assumer l'échec de cette négociation et qu'il ne pousse pas les syndicats à claquer la porte et à aller au clash. Là, on vient d'avoir une très longue interruption. Le patronat a un peu revu sa copie, vient de la transmettre au syndicat. Donc, on va voir si dans les heures à venir, la situation se débloque.
Ça peut encore durer quelques heures.
Ça peut encore durer jusqu'à tard dans la nuit.
Et bon, on suivra ça en tout cas ce soir, demain matin sur BFM Business. Merci beaucoup Caroline Morisseau avec nous ce soir dans Good Evening. Dans l'actualité ce soir, je vous disais, il y a le dossier Atos. Les choses se précipitent depuis 48 heures. Vous savez que le groupe a dévoilé donc ce matin son plan de refinancement qui prévoit de réduire de moitié la dette. Dette qui est aujourd'hui de près de 5 milliards d'euros. Bonsoir Mathieu Pechberti.
Bonsoir Guillaume.
L'autre confirmation, c'est que l'État va bien intervenir pour essayer de sécuriser ce qu'on appelle les activités sensibles. C'est ça, Mathieu, finalement.
Oui, exactement. Vous savez, ces activités de cybersécurité et les supercalculateurs qui sont logés chez Atos, où il y a des contrats avec le ministère des Armées, également avec le commissariat à l'énergie atomique pour la dissuasion nucléaire, les commandes, par exemple, des centrales nucléaires. Bref, des activités, effectivement, très sensibles. Et l'État s'est octroyé, ou en tout cas négocié, mais s'est octroyé avec Atos, ce qu'on appelle une action de préférence dans cette filiale qui est toujours logée dans la société qui est toujours appelée Bull aujourd'hui, qui avait, oui, été rachetée il y a une dizaine d'années. Et cette action de préférence, c'est effectivement une seule petite action de cette société Bull, mais qui donne des droits spécifiques à l'État. L'État, on a déjà dans beaucoup de groupes de défense, comme Safran, comme Airbus, comme Thales, où il y a aussi des activités très sensibles. Et cette action de préférence va lui donner des droits spécifiques en matière de gouvernance, sur un représentant de l'État au sein de la filiale française de Bull, qui aura du coup accès à l'information de cette société, donc sur les contrats, pour préserver les contrats notamment avec les entités publiques et sur les activités sensibles. Et puis il y aura également des droits de vote, peut-être, en tout cas Atos dit qu'ils ne sont pas encore négociés, mais des droits de vote au sein de ce conseil pour l'État, qui donc aura un pied certain dans ces activités. Et l'État a même négocié avec Atos un droit de préemption sur cette activité, ce qui veut dire que si demain pendant ou après la restructuration d'Atos, un nouvel actionnaire, on va dire dérangeant pour l'État, oui, prenait ne serait-ce que 10% du capital d'Atos, l'État peut lever cette option et donc racheter de force cette activité de cybersécurité et les supercalculateurs d'Atos. Donc c'est très important. Ce ne sont que des mesures mises en place, il n'y a rien de fait aujourd'hui. Oui. Mais en tout cas, l'État se laisse la possibilité de reprendre en main ses activités.
L'État qui monte au créneau, mais il avait prévenu il y a de ça quelques semaines qu'une solution
individuelle serait
trouvée. Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure un petit peu avant 18h30. On prendra un peu plus de temps pour évoquer les nouvelles du front, bien sûr, sur ce dossier Atos qui nous tient en haleine. Et ça n'est pas fini, visiblement. Pendant ce temps, l'État continue ses consultations pour essayer de trouver de nouvelles économies. Ce matin, il y avait une grosse réunion à Bercy pour évoquer des pistes avec les élus locaux. Et les maires l'ont dit très clairement, c'est pas de leur côté qu'il faut chercher de l'argent. Écoutez, André Léniel, c'est le vice-président de l'Association des maires de France.
Le gouvernement nous dit, vous êtes riche, on va vous ponctionner. Et dans le même temps, l'INSEE dit, pas du tout, vous avez un manque de financement à hauteur de quasiment 10 milliards, et dont une grande part sur les communes et sur les départements. Depuis 10 ans, ce sont 70 milliards d'euros qui nous ont été ponctionnés par l'État. Et aujourd'hui, pardon de l'expression, nous sommes à l'os. On n'a plus de gras. Et même pour certains, ils sont en grave difficulté. Donc le seul moyen, ça sera de baisser l'autofinancement et donc l'investissement. Et donc si l'État fait ça, il fera des collectivités territoriales des agents de la récession au lieu de se servir de nous pour être au contraire des tremplins pour un nouveau développement de notre pays.
Voilà les mots très cash d'André Léniel, le vice-président de l'Association des maires de France aujourd'hui à Paris. Bruxelles accélère contre la Chine. On vous racontait avant le week-end qu'une enquête anti-subvention avait été ouverte contre les géants chinois du photovoltaïque. Cette fois, c'est une enquête contre les gros fabricants chinois d'éoliennes qui a été dégainée donc ce mardi par la Commission européenne. En France, il y a eu des perquisitions aujourd'hui sur plusieurs sites des groupes chimiques Arkema et Daikin. Perquisitions dans le cadre d'une enquête sur de possibles contaminations au PFAS. Vous savez, ces polluants éternels dont on vous a beaucoup parlé la semaine dernière. Et puis en France, c'est un groupe dont beaucoup pensaient qu'après le Covid, il allait rechuter lourdement. Le labo Biomérieux a présenté ce matin un plan stratégique à 5 ans, très ambitieux. Le groupe n'a pas fait qu'engranger pendant le Covid, en fait. Il a vraiment préparé l'avenir. Hélène Cornet.
Biomérieux fait mentir tous ceux qui lui promettaient un retour sur Terre difficile. Le groupe se porte même mieux qu'avant la crise sanitaire, avec 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire par rapport à 2019. Le Covid a développé de nouveaux réflexes. Les tests sont devenus une aide complémentaire, voire indispensable au diagnostic, que ce soit dans les maladies respiratoires ou les maladies infectieuses. Le laboratoire lyonnais développe également des tests pour les fièvres tropicales ou contre l'antibiorésistance. Mais le plus prometteur pour Biomérieux, c'est sa nouvelle technologie baptisée Spotfire, lancée l'été dernier. C'est un outil nomade qu'on peut installer dans les hôpitaux ou les cabinets de médecins pour détecter soi-même les virus en 15 minutes sans l'aide d'un laboratoire. En France, c'est très compliqué de l'installer pour des raisons réglementaires, mais le dispositif séduit à l'international. De quoi permettre au groupe de fixer pour la première fois une trajectoire financière sur plusieurs années.
Voilà les nouvelles ambitions de Biomérieux. Hélène Cornet avec nous sur BFM Business. 19h11, on va sur les marchés. Étienne Braque, rebonsoir Étienne.
Bonsoir Guillaume.
On regarde la clôture à la Bourse de Paris. D'abord, on a chuté ce soir au CAC, sur le CAC 40, moins 0,86%, 8049 points. Et Wall Street, comment ça se passe?
Du rouge également, avec néanmoins une séance qui est sur une baisse un petit peu moins forte, avec un Dow Jones qui perd 0,4%, moins 0,3% pour le S&P 500, quand le Nasdaq est parfaitement stable, grâce notamment à Alphabet, la maison mère de Google, qui est sur des plus hauts historiques aujourd'hui, qui gagne 1,5%, avec une nouvelle puce dédiée à l'intelligence artificielle qui a été fabriquée avec le britannique ARM. Donc suite à cela, vous avez cette valeur qui s'en sort très bien aujourd'hui et qui frôle les 2000 milliards de valorisation boursière et qui repasse même en quatrième capitalisation mondiale, juste devant Saudi Aramco et devant Amazon. C'est pour vous dire comment ça peut très vite aller en l'espace d'une séance. La tendance de fond, elle reste quand même tout de même attentiste aux États-Unis comme en Europe, avec bien sûr des chiffres d'inflation qui sont très attendus attendue demain aux États-Unis, jeudi la BCE, Christine Lagarde qui est attendue sur son calendrier de baisse d'auto, et puis à partir de vendredi, bah, ça va alimenter vos journaux, mon cher Guillaume. Ça y est, les résultats d'entreprise ont commencé à tomber, résultats trimestriels. Comme toujours, ça commence aux États-Unis un vendredi avec le secteur bancaire, et puis ensuite à partir de la semaine prochaine en Europe avec notamment LVMH mardi prochain. Donc le marché qui a bien progressé après de nombreux records, notamment au mois de mars, fait une petite pause avant ses rendez-vous majeurs.
Merci beaucoup Étienne. Étienne Braque avec nous sur BFM Business. 19h12, nous on revient avec nos experts dans un instant. Ils sont là jusqu'à 20h pour parler de plein de choses. Athos, deux nouvelles du front. Ça commence à se décanter, enfin on espère. Et puis ce dossier de l'assurance chômage et des... l'emploi des seniors, on y est depuis hier matin et au moment où on se parle, on continue de négocier au siège du MEDEF. Pour combien de temps? C'est toute la question. Tout ça jusqu'à 20h entre autres. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h15, ils sont là jusqu'à 20h, nos experts, pour refaire l'actu. Bruno Coquet reste avec nous. Rebonsoir Bruno. Bonsoir. Docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE. Jean-Marc Sylvestre est avec nous. Bonsoir Jean-Marc, éditorialiste Atlantico. Frédéric Bocara est avec nous. Frédéric, bonsoir. Bienvenue.
Bonsoir,
également, économiste.
Guillaume. Bonsoir messieurs.
Membre des économistes atterrés. Est-ce que vous avez une pensée pour les partenaires sociaux qui y sont depuis ce matin, négociations au siège du MEDEF sur l'emploi des seniors? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des négociations comme ça, vous savez, qui s'étirent la journée, la nuit, avec des rebondissements, des interruptions. Enfin, ils y sont toujours. Et au moment où on se parle, c'est pas réglé. Écoutez ce que disait François Omri, le patron de la CFE-CGC, qui était il y a une heure sur ce plateau, qui disait, bah là, clairement, on est parti pour aller dans le mur. Écoutez.
On va plutôt vers un échec. Alors évidemment, il faut toujours espérer jusqu'à la dernière minute, mais la partie patronale a fait une suspension de séance de 4h30 pour revenir finalement avec des modifications de forme. Et on est sur cette problématique quasiment depuis le début. C'est-à-dire que c'est une négociation qui reste très déséquilibrée, dans laquelle finalement on observe que la tension, le cadre, il a été déterminé par la réforme des retraites, donc 2 ans de travail supplémentaire, et au final une négociation pour essayer d'aménager les conditions dans lesquelles je parle de la partie travail des seniors, oui. Qui par ailleurs a aussi des conséquences sur les autres parties. On essaye de travailler, de réfléchir aux moyens d'aménager ces 2 années supplémentaires, voire au-delà, c'est-à-dire les années précédentes. Et finalement, pour les salariés, on ne voit rien venir.
C'est un sujet qui a réémergé à l'occasion de la réforme des retraites. Je vous pose la question, qui a intérêt à ce que ça aille dans le mur, cette histoire, très clairement? Jean-Marc,
pour l'instant, personne n'a intérêt à ce qu'on aille dans le mur. Peut-être les syndicats de salariés, mais encore, faudrait vérifier. Mais non, personne n'a intérêt de. Je trouve même que c'est assez intéressant ce que vous appelez un bras de fer. À mon avis, c'est une négociation entre des gens qui se connaissent très bien, donc ils vont pas se battre. On est dans une logique assurantielle. On a dégagé des excédents en fait, grâce à la réforme des retraites, et c'est bien. Et les partenaires sociaux ne sont pas d'accord sur le partage de ces excédents, c'est-à-dire sur le partage des bonus. Alors, où est-ce qu'on fait partager le bonus en diminution de charges et de cotisations? C'est ce que j'ai compris. Ou alors, est-ce qu'on utilise ce bonus en amélioration de la situation des départs et des retraités? Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce qui est très bien, c'est que ce sont les partenaires sociaux qui s'en occupent. C'est le vrai contre-pouvoir en France.
Oui, mais vous voyez bien que ça n'avance pas.
Mais ils vont avancer.
On n'avance pas. C'était déjà la DER.
Alors, s'ils n'avancent pas, ceux qui vont perdre, c'est ceux qui aspirent à tout bloquer et donc à demander à l'État de gérer à sa place. Et si l'État gère, eh bien, j'ai l'impression qu'ils seront tous perdants parce que l'État va piquer le bonus qu'il a besoin d'argent.
Est-ce qu'on peut trouver une position intermédiaire entre les syndicats qui reparlent, et à juste titre, de retraite progressive et le patronat qui continue d'agiter la menace d'une perspective d'un... Il n'y a plus ça, c'est des seniors, mais c'était un petit peu de ça qu'il s'agit finalement. Frédéric, comment est-ce qu'on peut s'en sortir de
comment
ça
dire? Je pense qu'il faut arrêter de penser uniquement à ces gros sous, mais penser au développement possible de l'économie.
C'est quand même une histoire de gros sous, là, malheureusement, qu'on le veuille ou non.
Oui, mais c'est peut-être ça le défaut. Il faut penser au développement de l'économie. Parce que, d'abord, on n'est plus dans un système assurantiel, parce qu'on a transformé les cotisations sociales en un impôt.
Non, j'ai bien vu qu'on n'était pas dans la capitalisation.
Bruno l'explique très bien dans son blog, voilà. Bon. Que j'ai relu pour réviser. Mais il a raison. Pôle emploi veut en prendre une partie, en plus. Donc ça pose problème. On a besoin. Si on regarde les choses de loin, de quoi on a besoin ? De développer la formation, les compétences et de la transmission. C'est ça l'enjeu, y compris sur le chômage et sur l'emploi. Et donc, les seniors, au lieu de leur dire on va vous tordre le bras, vous allez travailler 2 ans de plus et trouver des bouts de ficelle pour rafistoler, on pourrait au contraire bénéficier de toutes ces compétences, toute cette ressource humaine, toute cette richesse d'inventivité pour faire. Et là, ça pourrait être du gagnant-gagnant, mais avec un type de patronat qui cherche le développement réel et qui n'est pas sous la pression financière. C'est un peu ça le problème. Et si on ne voit pas ce basculement qu'il faut faire vers compétences, vers formation, eh ben on n'arrivera pas à avoir le nouveau monde. Et là, le problème, c'est que c'est l'ancien monde qui domine dans le patronat, oui, très fortement. Omril, je suis sûr, comme la CGT, il pousse des idées comme ça.
Oui.
Mais, et je pense qu'une partie du patronat serait pour. Moi,
tout le monde a fait pléthore de propositions, là, pour le coup.
Non, mais ça, c'est vous qui décidez ça et qui a annoncé ça.
Non, je ne décide pas. Les enquêtes montrent que le grand problème, c'est la pénibilité d'une part, mais les compétences surtout.
Les pénuries de votre position universitaire. Mais de quel argent il s'agit? Il s'agit de l'argent du travail. C'est la création de valeur.
L'argent des travailleurs.
Des travailleurs et des entreprises.
Les entreprises font partie des travailleurs.
C'est bien de le rappeler.
Pour le coup. Pardon, ces travailleurs font partie d'entreprises.
C'est pour ça qu'ils discutent d'ailleurs.
Bruno Coquet, est-ce qu'on trouve un sujet? La question que je vous pose, Bruno, c'est est-ce qu'on peut trouver un dénominateur commun aux attentes des uns et des autres? Et de quand bien même on trouverait un accord ce soir, est-ce que ça serait le grand soir? Est-ce que ça serait changer sur le sujet de l'emploi des seniors en France? Ou est-ce que c'est culturel avant tout, finalement?
Non, ce ne sera pas le grand soir. Alors déjà, il faut observer que par rapport à de grandes négociations sociales qu'on a connues, personne ne claque de porte.
Non, voilà.
Du coup, ça veut dire qu'il y a quand même...
Attendez, vous entendez François Hommel qui dit on n'est pas loin de...
C'est la nuit que les portes se claquent vers 2h du matin.
Ne pas avoir d'accord ne veut pas dire s'en aller avant la fin.
Oui.
Donc ça, c'est quand même dans le schéma, c'est un peu différent. Donc, après ça, il faut avoir en tête que dans la majorité des entreprises, les entreprises gardent leurs seniors.
Les petites et les moyennes.
Les petites, les gens qui ont des problèmes de compétences, enfin pour des tas de raisons, mais en tout cas, à chaque fois qu'on a reculé l'âge, les seniors sont restés, le taux d'emploi des seniors a augmenté parce que les entreprises les gardent. Bon, donc, après, il y a des problèmes de discrimination des seniors parce qu'ils sont surexposés au licenciement, aux ruptures de contrat de travail, on va dire, et une discrimination parce que à l'embauche. Et donc du coup, c'est ça que je pense essayer de dire François Omril, c'est-à-dire, il disait en gros, on essaye d'aménager l'allongement créé par le fait d'avoir repoussé l'âge
de l'aéroport de l'âge de départ. Alors, oui.
Et donc aménager, ça veut dire quoi? C'est tous ces machins un peu flous qui ne ressemblent pas à un grand soir. C'est-à-dire aménager les entretiens tout au long de la vie professionnelle et fin de carrière, voir qu'est-ce que ça donne avec le compte épargne temps, voir comment on traite ceux qui posent problème, sachant que ceux qui posent problème, c'est principalement dans les grandes entreprises où on a une survivance de pré-retraite d'entreprise, oui. Alors que l'État arrêté de les subventionner. Donc ça, c'est un problème parce qu'elles ont les moyens de se débarrasser de leurs seniors. Donc les bonnes pratiques, elles sont plutôt à prendre dans cet univers-là. Et donc, du coup, ces mesures ne peuvent pas afficher quelque chose d'extraordinaire sur on va interdire de licencier les seniors, on va tous les embaucher,
donc
on va les payer.
On aura encore réussi à passer à côté.
Mais on pourrait regarder le modèle allemand, hein. Parce que les Allemands sont beaucoup plus positifs que nous en maintenir les seniors au travail.
Le modèle allemand, faut peut-être...
Hein? Les Allemands et d'autres, le point c'est de savoir, c'est des gens expérimentés. Si on a besoin de compétences, on a quand même une masse de gens qui sont expérimentés et qui sont licenciés. Et lorsqu'ils sont licenciés, qu'on ne les réembauche pas. Et pas forcément qui sont démonétisés du point de vue des compétences numériques, je ne sais quoi. Tout le monde n'est pas dans ce cas-là, dans les chômeurs seniors. Et donc, du coup, on a quand même un problème qui est mentionné dans le projet d'accord pour le moment, qui est de changer les mentalités. Ce qu'on observe quand même, c'est que, alors ça paraît flou ça, mais dans tous les pays qui ont augmenté leur taux d'emploi des seniors significativement, ils ont fait énormément d'efforts là-dessus, que ce soit le Danemark, les Pays-Bas, la Suède, etc. Ils ont tous fait énormément d'efforts là-dessus. Et l'Allemagne comme...
Mais regardez, il y a un gros problème de transmission de formation et de transmission de compétences. Comme vous le dites, c'est pas parce qu'ils sont vieux qu'ils sont démonétisés. Loin de là, au contraire. Visitez Alstom. Alstom, avec leur problème de manque de soudeurs. Et soudeurs à plusieurs... C'est pour les trains, c'est pour les cuves, c'est pour la chaudronnerie, tout ça. Et un soudeur, il faut 7 ans de formation initiale, puis 3 à 4 ans de compagnonnage. C'est 10 ans, en réalité. Et ils disent, mais moi, j'aimerais pouvoir, comme fin de vie professionnelle, transmettre. Donc, réouvrir des écoles, ouvrir un chantier de la formation professionnelle et de la transition vers une autre forme de travail pour les seniors, ça pourrait être quelque chose de gagnant-gagnant. Mais j'insiste, il y a la pression financière de la rentabilité immédiate qui pose problème. On le verra pour Atos aussi. Les baisses de dépenses de formation, on en souffre.
Non, mais y a et là, il peut y avoir un accord.
Plan de formation, il n'y a jamais eu autant
de dépenses de formation. Oui, mais elles baissent. Non, les dépenses de formation d'entreprise ont baissé, Bruno.
Il y a la mentalité de dépenses publiques
aussi élevée dans la formation.
C'est pas un problème de fric,
ça a baissé. Ça a baissé en 5 ans. Non, mais les mentalités, ça cède avec des incitations.
Jean-Marc,
il y a énormément d'argent.
Non. Oui, oui, non, mais je veux dire, c'est un niveau. Il y a quand même. Je suis d'accord. Il y a énormément d'argent. D'ailleurs, s'il faut en raboter, on va d'ailleurs, je pense, en raboter deux
sur la formation. Mais c'est
bien sûr.
Mais c'est marcher sur la tête.
Allez voir ce qui se passe dans les contrats en alternance, alors.
Ben oui.
Il va falloir là. Et puis, c'est surtout la mentalité des entreprises. Pourquoi, dans les moyennes et petites entreprises, on prolonge le travail des seniors le plus longtemps possible, alors que ce n'est pas le cas dans les grandes. Mais c'est parce que dans les grandes, la relation humaine est différente.
Bon, discussion non, qui se poursuit.
Il n'y a pas de ressources humaines discussion, pour chercher quelqu'un d'autre.
Discussion
dans les
qui
aussi.
Se poursuit.
On a quelqu'un en garde.
On les garde, ça. On les aime.
Oui, mais il faut organiser la circulation des deux côtés. Il y a un double problème. Discussion qui se poursuit au moment où nous parlons.
C'est des familles.
Ça peut durer encore des heures, évidemment, ce genre de discussion. On connaît. De toute façon, on se parle, c'est négocié entre partenaires sociaux. Ça peut, ils y sont depuis hier matin, 9h, mais ça peut encore durer quelques heures, évidemment. Puisque vous parliez d'Atos, je voulais avoir votre point de vue sur la façon dont les choses se décantent. Donc, plan de refinancement annoncé ce matin, l'objectif, réduire la dette. Près de 5 milliards d'euros aujourd'hui, on veut la baisser de 50%. On cherche 1 milliard d'euros en parallèle. Et puis l'État qui vient à la rescousse, d'une certaine manière, des activités stratégiques. L'État va prendre une action de préférence chez Bull, l'ancien Bull, qui est une partie de la filiale BDS dont on a beaucoup parlé. Est-ce que l'État joue son rôle, là ? Est-ce que ça y est ?
Oui,
on est proche de voir l'État...
L'État intervient avec une mise qui est pas... qui est minimum en fait, c'est mais avec minimum. Des incidences derrière parce qu'ils ont pris des actions de garantie, oui. des choses qui peuvent les obliger finalement à intervenir davantage.
Oui, mais il faut des acteurs, des investisseurs temps. Derrière, ne serait-ce que pour cette activité.
Mais il va falloir nécessairement des investisseurs derrière parce que
qui va y aller
parce que d'abord le capitalisme a perdu. À Atos. Et il faut bien qu'ils perdent de temps en temps. Ils gagnent aussi, hein. Donc il faut bien qu'ils perdent. On va pas regretter que des gens qui ont fait des erreurs de stratégie perdent à peu près les deux tiers de leur mise. Parce que c'est la dévalorisation, elle est de cet ordre-là. C'est pas la seule affaire, hein, qu'on a connue en France au cours des trois derniers mois. Parce que si je fais le compte avec Orpea, où on a perdu 5 milliards, Casino, où les actionnaires ont perdu 5, et ici Atos, il y a.
Non, mais là, je vous parle des super calculateurs, attention. Alors, on ne parle pas d'une baguette.
Le problème, c'est qu'on n'a pas réglé le plan stratégique.
Voilà.
Tant qu'on n'a pas réglé un plan stratégique de ce que peut faire Atos, est-ce qu'ils font continuer de faire de l'infogérance qui est cannibalisée tous les jours par Google et qui n'a pas, visiblement, s'il ne s'adosse pas à une société de conseil en organisation, en forme, mais eux, ils sont déjà très équipés, ne va pas beaucoup revivre. Les supercalculateurs dont on a besoin, c'est-à-dire c'est l'ancienne bulle, ça. Hein,
oui, c'est ça.
C'est l'ancienne bulle dont on a besoin pour notamment l'intelligence artificielle et la cybersécurité.
Avec un savoir-faire que seule la France maîtrise.
J'ai compris que ni Airbus,
ni Thales n'est intéressé.
Bon.
Voilà. Il y a toujours plus l'idée qu'on va garder le groupe Atos dans son intégralité, qu'il n'y aura pas de
dépeçage. D'abord, il y a un double problème. Il y a un problème de pression financière folle qu'il faut lever. J'en avais parlé ici, déjà alerté très tôt. Et l'autre fois, j'avais dit, attention, les banques sont folles, des prêts à 18 mois à 1 an, c'est pas possible. Par exemple, quand Atos a fait le système informatique du ministère des Finances, c'est 7 ans de dépenses, de pertes d'une certaine façon, qu'il faut assurer avec d'autres activités comme l'infogérance et tout. Et après, quand ça devient bénéficiaire, c'est autre chose. Donc il faut un mix d'activités et le découpage en deux n'avait pas de sens. C'est pour ça qu'Airbus en a pas voulu. Je veux tout ou rien, mais un morceau, ça marche pas. Parce que c'est comme prendre un bras et puis c'est désorganisé. Mais il faut donc assainir. Il y a un problème de transparence. En octobre dernier, il y a eu un comité social économique, l'ex-comité d'entreprise, où le cabinet d'expertise qui appuie les salariés, Sextant, a fait une lettre en disant « on n'a pas pu avoir même les documents que légalement on doit avoir ». Et d'ailleurs, la boîte, j'ai appelé les syndicalistes, j'ai discuté avec eux. Ils ont repoussé la publication de leur compte qui devait être le 20 février, au 20 mars, puis au 28 mars. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui est un peu pas transparent. Ils demandent à voir combien sont payés les avocats, combien sont payés les cabinets de conseil. Ils n'ont pas. Donc il y a un problème.
C'est aussi ce qui a fait fuir certains investisseurs,
bien
certains
sûr.
Du privé. Qui ont pas
et donc le fait que l'État vienne avec la BPI, ça peut être le début d'une prise de responsabilité. Mais il y a un problème de projet. Effectivement. Projet articulé, mais à nouveau, les compétences, les salariés, donc changer la gouvernance, entendre les salariés, Ils savent, depuis 2014, ils ont perdu 35% des effectifs en France. Les dépenses d'emploi se sont, de formation se sont effondrées.
Et les clients sont partis.
Les RH, moins 30%, alors qu'il faut de la RH fine pour développer les compétences. Donc il y a un problème de fond. Et le problème, comme le dit Guillaume, c'est que c'est pas seulement les capitalistes qui payent d'une certaine façon. Mais si on perd des compétences comme les supercalculateurs, comme le jumeau numérique, comme la possibilité de simuler les explosions nucléaires ou les transports, oui. ça pose un problème.
Donc, vous avez besoin d'industriels qui investissent oui. pour faire vivre
il y a des projets possibles, le cloud européen, il y a vraiment des grands enjeux. Pas seul, non, il faut un projet d'ensemble. Non, pas de chef, il faut un projet d'ensemble.
Il faut un industriel,
ensuite on met en musique, mais il faut une partition commune.
Je suis incapable d'expliquer quelle est la stratégie d'Atos.
Il faut une partition commune.
Savoir qui va remettre de l'argent.
Et sortir du court terme.
Mais vous n'avez pas de solution. Ou vous avez du capital ou vous avez de la dette.
Non, vous développez aussi.
Non, mais sauf que les gens qui ont mis de l'argent, apparemment, pour ne pas démanteler l'entreprise, ouais. c'est-à-dire ils considèrent bah, qu'il y a de la synergie, et y compris, j'imagine, avec OnePoint, l'entreprise ouais. de David Layani. Ce qu'a dit François Ombril tout à l'heure, le syndicat majoritaire d'Atos, ouais. il est sur la même ligne. Donc déjà, là, on a un point, c'est qu'on maintiendrait l'entreprise dans son intégrité. Bon, première chose. Deuxième chose, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, la confiance, puisqu'il y a sur l'infogérance, qui sont des contrats à long terme. Effectivement, si les clients qu'on perd, on les récupère pas tout de suite. Ils sont partis à la concurrence. C'est difficile d'en récupérer de nouveau. Et visiblement, quand même, Atos en a perdu. Donc, il y a urgence pour arrêter l'hémorragie. En plus, avec les mauvaises nouvelles qui étaient données, enfin, qui avec les nouvelles qui n'étaient pas données
oui, c'est ça.
Au CSE. Et donc, du coup, on voit bien que rétablir la confiance est urgent et que si la négociation peut avancer vite avec les banques, du coup, c'est une bonne chose. Par ailleurs, si l'actionnaire perd dans le système capitaliste, il est normal que l'actionnaire perde. Et là, Atos, je pense que c'est fait, ça peut encore se faire.
Mais il y a une ligne stratégique sur les compétences,
c'est
quand même, Bruno.
C'est 4,8 milliards d'euros de dette.
C'est un point. On ne doute pas qu'il y a des compétences chez Atos. Non. Le point, c'est d'arriver aujourd'hui. On a un problème financier avant d'être un problème opérationnel.
Il y a un double problème.
Et donc, du coup.
Il faut qu'on s'arrête.
Parce qu'il y a l'aventure américaine.
On a un problème financier dont l'aventure américaine fait partie, d'ailleurs. Et donc, du coup, il faut résorber ce problème financier. Après, l'opérationnel suivra.
Nous sommes d'accord, mais avoir comme but de développer les compétences, parce que les ingénieurs eux-mêmes, ils disent que les salaires sont trop bas, on n'attire plus. Donc il y a un problème de choisir les compétences contre la finance.
Surtout, je pense qu'ils ont perdu leur stock option.
Les compétences contre la finance, ça devrait être ça, nouvelle société.
C'est pas les compétences qui vont vous apporter des clients
immédiatement. Allez, 19h32 sur BFM Business.
19h30. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h34, on est de retour avec nos experts. Jean-Marc Sylvestre est là, Bruno Coquet est là et Frédéric Bocara est là également. Alors, dans la série L'État cherche de nouvelles économies, vous savez que Fitch et Moody's parlent dans 10 jours sur la note de la France. Hein, c'est le 26 avril prochain. Et demain, il y a une échéance très importante puisque Bruno Le Maire va présenter, vous savez, la nouvelle trajectoire du gouvernement pour essayer de ramener les déficits sous la fameuse barre des 3% du PIB en 2027. Il y croit apparemment, Bruno Le Maire. Ça porte un nom un peu barbare, ce document qu'il va présenter demain. Ça s'appelle le PISTAB, c'est ça
oui.
Dans le langage de Bercy, on appelle ça le PISTAB.
Le programme de stabilité.
Le programme de stabilité.
Oui. Mais moi, je suis sûr d'une chose, c'est qu'il va afficher à l'horizon du programme de stabilité en 2027, 3%, c'est sûr.
Oui, bien sûr.
Alors après, le problème, c'est comment
c'est
on y arrive.
C'est la trajectoire qui va. Voilà,
est-ce qu'on y arrive en faisant des efforts budgétaires ou est-ce qu'on y arrive en ayant des bonnes perspectives de croissance?
Alors, oui. Ou en trouvant les économies afférentes.
Oui, voilà, des efforts budgétaires.
Et alors, justement, au sujet.
Il y a moins de dépenses par effort budgétaire.
Oui. Et alors, ce matin, écoutez, réunion à Bercy avec des représentants des collectivités locales pour trouver une nouvelle piste d'économie. Écoutez, André Léniel, c'est baron du Parti Socialiste, vice-président de l'Association des maires de France, qui a mis tout le monde d'accord d'entrée de jeu. C'est pas la peine d'aller chercher de l'argent du côté des collectivités locales. Écoutez.
Le gouvernement nous dit, vous êtes riche, on va vous ponctionner. Et dans le même temps, l'INSEE dit, pas du tout. Vous avez un manque de financement à hauteur de quasiment 10 milliards, et dont une grande part sur les communes et sur les départements. Depuis 10 ans, ce sont 70 milliards d'euros qui nous ont été ponctionnés par l'État. Et aujourd'hui, pardon de l'expression, nous sommes à l'os. On n'a plus de gras. Et même pour certains, ils sont en grave difficulté. Donc le seul moyen, ça sera de baisser l'autofinancement et donc l'investissement. Et donc, si l'État fait ça, il fera des collectivités territoriales des agents de la récession au lieu de se servir de nous pour être au contraire des tremplins pour un nouveau développement de notre pays.
Voilà, je peux refaire le sketch d'Emmanuel Le Chip qui me disait c'est du côté des collectivités locales qu'il y a des économies à faire, il y a des doublons, il y en a qui se la coulent douce, blablabla, c'est là où on travaille le moins, enfin il nous a fait tout un laïus. Vous pensez que là il y a des économies, des gisements d'économies à aller chercher du côté des collectivités locales?
Ah bah je pense que c'est le premier des gisements d'économies.
Ah bon, bah d'accord.
D'aller chercher dans les collectivités locales, c'est-à-dire la superposition des différentes strates administratives, les municipalités, les départements, les régions, les associations de communes, enfin bon.
Donc la réforme Hollande, tout ça,
Évidemment. Quelle est l'administration qui a fait le plus de création d'emplois dans un contexte qui était de stabilité au niveau des fonctionnaires, sont les collectivités locales.
On leur a transféré la moitié des kilomètres de route.
Combien d'emplois nouveaux? Combien d'emplois nouveaux? 60 000 l'année dernière, je crois. 60 000, c'est important. Parce que quand vous employez un emploi,
le Covid a fait émerger de nouveaux besoins de proximité, de nouveaux besoins.
Je crois que là, on est franchement au cœur d'un problème qui va nous occuper pendant les semaines qui viennent. Et vraisemblablement, Bruno Le Maire va être au centre de cette question. On a deux stratégies budgétaires qui s'opposent et qui vont se transformer en conflit politique. On a une stratégie qui est portée par Bruno Le Maire, le livre qu'il a écrit, bien sûr, mais ses interventions continuelles qu'il a faites pendant les semaines qui ont suivi la publication de son livre, à savoir que nous avons en France un problème de dépenses, et notamment de dépenses de fonctionnement, ce qui explique le déficit que nous avons et qui explique l'endettement. Si l'on veut régler notre problème d'endettement, il faut régler notre problème de déficit, et pour régler notre problème de déficit, il faut raser, raboter, éliminer un certain nombre de dépenses, et notamment de dépenses sociales, puisqu'elles représentent la moitié des dépenses de fonctionnement.
Sur les collectivités locales.
Et vous avez, sur les collectivités locales, ça en fait partie. Donc, notre ami, là, il a pris le devant et il a prévenu que bon. Mais, pardonnez-moi, c'est que face à cette stratégie qui considère que la faute est aux dépenses, vous avez une autre stratégie qui s'était pas exprimée jusqu'à maintenant, mais qui vient de s'exprimer par la bouche du président de la République. On n'a pas de problème de dépenses, on a un problème de recettes. On a un problème de recettes et donc de croissance. Et donc, c'est la croissance qui réglera notre problème. C'est ça la nature du conflit et la nature du
situation. J'ai l'impression depuis quelques temps, on raisonne plus à travers les dépenses qu'avec l'idée d'aller chercher de la croissance avec les dons. On a l'impression que la croissance avec les dons, on l'a un peu perdu de vue, ça, quand même.
C'est terminé. Alors moi, je crois à la comptabilité, donc j'attends avec impatience la loi de règlement qui va permettre de voir si on n'a pas eu de problème de dépenses. Et moi, je suis persuadé qu'on a des problèmes de dépenses qui se chiffrent. On a quelques paquets de 5 à 10 milliards qui se sont déplacés dans le courant de l'année. Et je pense que ça, c'est un vrai problème de fond.
Oui, mais tout le monde s'y oppose.
Non, mais le point, c'est ça, avoir une stratégie. D'accord, tout le monde. Mais si on dit oui à tout le monde, on résoudra rien. Les collectivités locales, je pense qu'ils crient avant d'avoir mal. C'est sûr qu'il y a un gisement d'économie dans les. Alors, il y a plein de couches de collectivités locales, comme on dit, le mille-cheval territorial. Il y a même François Rebsamen qui demande de repartager la Bourgogne-Franche-Comté en Bourgogne et Franche-Comté. Donc, du coup, on va en ajouter. Mais le point, c'est que chacune a ses problèmes, et notamment Île-de-France Mobilité, Grand Paris, qui explique 50% du déficit des collectivités territoriales cette année.
Frédéric Bocara.
Oui.
Est-ce que le cri avant d'avoir mal, les collectivités
locales? Non, elles ont eu très mal. D'abord, il y a eu des transferts de compétences qu'on a omis. Les routes, la moitié des kilomètres de routes nationales sur 40 000, il y en a 20 000 qui ont été transférés aux collectivités locales. Ça transférait des agents, c'est pas des créations nettes, mais ça apparaît comme des créations. Il y a eu le Covid, où les collectivités, les communes, elles ont été en première ligne, vraiment en première ligne. La pauvreté qui a monté dans beaucoup de communes, moi qui habite dans une ville de la région parisienne qui est pauvre, on le voit. Il y a ce qui s'est passé sur l'enseignement. Quand vous regardez par exemple les dépenses d'enseignement primaire, la dépense intérieure d'éducation d'enseignement primaire, si elle ne baisse pas, c'est parce que les communes mettent les ATSEM, c'est-à-dire financent les aides scolaires, etc. Donc en fait les communes, parce qu'elles sont proches des gens, donc elles sont proches de l'exigence des gens, et donc elles dépensent pour ça, parce qu'il y a des besoins énormes. Je ne vous dis pas, il y a un aspect désordonné, mais c'est les besoins du tissu social qu'on sous-estime. Regardez, par exemple, il va y avoir, en Île-de-France, 40% des médecins ont plus de 60 ans. Donc il va y avoir des départs à la retraite. Là aussi, les collectivités vont mettre au pot. Donc il y a un problème d'ensemble qui finalement aboutit aux collectivités locales. Donc s'il y a un problème d'organisation, il est aussi là. Il y a la vie des gens, il y a eu la Covid. Bon. Alors bien sûr, on pourrait parler de nouveaux financements. Moi, j'ai écrit des articles pour effectivement une nouvelle taxe sur le capital financier pour les collectivités locales, bien sûr. Mais ça ne règle pas les problèmes immédiats. Et les problèmes immédiats, on ne les règle pas en baissant les dépenses. En baissant les dépenses, on se retrouve comme dans les années 30. En dépensant un peu n'importe comment, on pose des problèmes. En baissant les dépenses, on se retrouve comme des années 30. La déflation du tristement célèbre Laval ou la déflation Brüning en Allemagne en 31. Donc, il faut des avances. Comment on organise le système bancaire, le pôle public français, la Caisse des dépôts et tout le pôle qui est censé soutenir les collectivités pour qu'elles ne soient pas étranglées par les emprunts et que les avances soient correctement faites? Donc, comment on mobilise pas, dans toute l'Europe les collectivités?
On ne peut pas parler des dépenses comme ça. Les dépenses ne sont pas un gros paquet indistinct. Quand on a des problèmes tels qu'on les a, il faut les prendre une par une et regarder les
Bruno, on va les
justifier
quelle
efficience elles ont.
On va les prendre une par une.
On ne peut pas faire un gros paquet en disant il n'y a pas assez de dépenses, il y en a trop, etc.
Dans une enveloppe qu'on regarde tout autrement qu'en 1930 avec la déflation, dans les enveloppes, on s'autorise comme en 44 une augmentation, une expansion sociale.
Jean-Marc, qu'est-ce qu'il faut?
Là, on n'est pas dans la déflation quand même.
Vous n'allez pas dire dégraisser le mammouth. Non, mais on parle de dégraisser le mammouth des collectivités locales.
La façon dont on pense, c'est en termes de déflation.
Jean-Marc Sylvestre.
Non, mais vous avez raison. Il faut évidemment regarder les dépenses secteur par secteur, niche par niche, et vous allez vous apercevoir d'ailleurs que dans les niches, il y a des chiens qui protègent leurs dents.
Ah bah oui, Molinier Verdier,
elle a aboyé là. Donc, elle a aboyé aujourd'hui sur les niches, Molinier. Vous avez eu depuis deux mois un débat qui a enflammé la classe politique et un peu les médias, et surtout l'opinion publique, puisqu'à chaque fois qu'on interrogeait un homme politique, quel que soit son courant, il était opposé à toute réduction de dépenses, quelles qu'elles soient. Tous les exemples que Bruno Le Maire a sortis, c'était des exemples ponctuels. Eh bien, il s'est fait ramasser. Donc, il faut quand même arriver à ce constat, à cette conviction, c'est que nous sommes le pays aujourd'hui, en Europe, qui avons le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé globalement.
Mais c'est un
le plus
calcul,
élevé globalement.
Ça.
Alors vous me direz, non, ça n'a pas d'importance.
Les autres aussi. Nous avons de calculer la retraite autrement et on est en dessous des Allemands.
Oui, mais le jour où on a demandé à calculer la retraite autrement, c'est-à-dire à passer à la capitalisation,
vous n'étiez pas du tout.
On passe pas sous les Allemands comme ça.
On est en dessous des Allemands.
Bon, non.
Si.
Bon, écoutez.
Puis bon, en Allemagne, il y a 3% de chômage, donc.
N'empêche que vous avez et vous avez
beaucoup de précarité.
Vous avez
et les infrastructures de transport.
Et vous avez, pardonnez-moi, alors, mais vous avez un total de dépenses publiques, et là, il faut bien raisonner en macroéconomie, qui est peut-être un des plus élevés en Europe aujourd'hui. Donc, ce n'est pas possible. On ne peut pas se plaindre d'un côté et dire, ah, mais regardez, il y a un endettement colossal, et puis continuer de distribuer de l'argent à tous ceux qui en demandent. Ce n'est pas possible.
Il faut développer l'économie, c'est ce qu'on dit. Il y a un problème de croissance.
Mais il y a un problème...
C'est ce que dit le président de la République.
Oui, c'est ce que dit le président de la République pour justement. Le président de la République qui aujourd'hui résonne en termes de politique, il s'aperçoit bien que l'opinion publique est très énervée par toutes ces perspectives d'austérité, entre guillemets. Eh bien, il dit non, c'est pas un problème de dépenses, c'est un problème de croissance.
Mais de répartition des dépenses. Mais comme il est aux manettes, il est obligé de tenir compte. Mais en réalité, on n'a pas un projet pour les dépenses. C'est là où je veux vous rejoindre, effectivement. On fait des dépenses au coup par coup.
Si, c'est du salaire.
Mais
c'est du Doliprane.
Si par exemple je fais 100 000 pré-recrutements d'infirmières, c'est des dépenses de fonctionnement parce qu'on paye des gens en formation. Mais c'est une sorte d'investissement parce que ça permet de développer demain.
Mais on
l'a
pas
fait. Si je fais 100 000 instits.
Mais on n'a pas fait ça.
Mais c'est pas ça.
Mais c'est ça.
On a le plus gros taux de dépenses avec des services publics.
Mais c'est ça
du chèque
carburant. Mais c'est pas du chèque carburant dont on a besoin, c'est des pré-recrutements.
Pardonnez-moi.
Allez.
Nous avons des services publics qui fonctionnent parmi les plus mal.
Je faisais référence aux agences de notation. Je disais Fitch et Moody's se prononcent dans 10 jours, vendredi 26 avril.
C'est pas ça. Le critère, ça va être le comportement du marché financier,
lorsqu'ils
vont appliquer la prime de risque.
Quand on a annoncé le 21 mars que les déficits seraient plus élevés que prévu, ça n'a pas bougé sur le
taux
français.
Ça n'a pas
bougé. Il a même légèrement reculé.
Ça bouge sur le spread de taux, ça ne prévient pas.
Le spread franco-allemand, là, par contre, là, le spread s'est un petit peu écarté.
Oui, mais vous êtes en train de dire qu'il faut sortir les dettes des marchés financiers et les mettre dans la BCE, mais ça, je suis d'accord.
Le truc, c'est que c'est brutal.
Les intérêts, on l'a écrit depuis le début.
Le jour où le marché s'énerve, il n'a pas prévenu, après-demain, je vais m'énerver, je commence à m'énerver. Non, il s'énerve.
Il tape très fort, comme il a fait en Grèce, et du coup, la BCE
ce qui est important aujourd'hui, c'est que ce dysfonctionnement technique, vous avez raison qu'il y a un problème technique, etc., débouche aujourd'hui sur un vrai problème politique au sein même de la majorité et au sein même du gouvernement d'Emmanuel Macron.
Vous êtes en train de dire que l'utilisation de l'argent, c'est politique, je suis tout à fait d'accord.
Bien, quelques minutes avant vos avis pour parler de ce sujet, alors hautement inflammable aussi, vous savez qu'on est à 3 mois à peine des Jeux Olympiques, et donc il y a ce sujet serpent de mer qui est remonter à la surface aujourd'hui. Faut-il limiter le droit de grève dans les transports sur certaines périodes? Et c'est le sénateur UDI, Hervé Marseille, qui présentait une proposition de loi en ce sens aujourd'hui. En gros, il dit il faut sanctuariser 30 jours par an. Et pas n'importe lesquels, évidemment. Écoutez Hervé Marseille ce matin.
Il y a un détournement du droit de grève. Personne ne remet en cause le droit de grève. Là, il y a détournement du droit de grève. On fait grève avec une poignée d'individus qui sont sur des boucles WhatsApp, qui s'appelle coordination, comité, et qui sont très catégoriels. On dit les contrôleurs, les aiguilleurs. D'habitude, notamment à la SNCF, quand il y avait une grève, c'était pour l'ensemble des gens qui travaillent à la SNCF. C'était pour des revendications légitimes, soit de salaire, de primes, de conditions de travail. Là, on est sur du catégoriel et on commence par une grève.
J'ai le droit de dire, vous avez rigolé à gorge déployée, Frédéric, en écoutant le sénateur UDI Hervé Marseille, là, ou pas?
Oui, je croyais que c'était Tartuffe qui parlait. Parce que
il dit il n'y a pas détournement du droit de grève. Il dit il n'y a pas détournement du droit de grève.
Non, il n'y a pas détournement. Il dit c'est des revendications légitimes. Il y a quelques années, quand les gens de la SNCF étaient en grève, il disait que c'était pas des revendications légitimes. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu Tartuffe. Deuxièmement, il dit non, on n'attaque pas le droit de grève. Moi, j'avais envie de dire si on l'attaque, mais 30 jours. C'est-à-dire que si on dit aux gens vous pouvez pas vous défendre pendant 30 jours, ça peut être terrible.
Alors c'est 30 jours avec une limite de 7 jours d'affilée, oui, mais... et ça ne concerne évidemment qu'en cible les vacances scolaires, jours fériés, événements majeurs, suivez mon regard.
Vous me permettez juste une image, et puis un mot, et après je vous laisserai la parole, messieurs. Mais c'est comme si on disait, il y a un poulailler, les poules, on va laisser rentrer le renard, mais juste un jour par semaine. Voilà, le renard, il va bouffer toutes les poules. Et la deuxième chose, c'est effectivement, il y a un enjeu sur les Jeux Olympiques. Les transports, par exemple, ils sont saturés en Île-de-France, saturés. Et c'est à cause de deux problèmes. Un problème d'aménagement du territoire, où on ne dialogue pas avec les entreprises sur l'aménagement du territoire.
Et un problème de manque de personnel.
De personnel et de formation, de qualification. Et donc, si on ne règle pas ces problèmes-là, on va avoir ça sans cesse.
Bruno Coquet.
Moi, je crois que c'est... Enfin, ce qu'on essaye d'imiter, c'est le modèle italien.
Proposition de loi adoptée au Sénat, je vais le préciser. Oui. Ça a peu de chance de passer à l'Assemblée, quoi que vous entendez dans la majorité des députés issus là qui disent « Ah, pourquoi pas, on peut quand même regarder ça. »
On essaye d'imiter. Les Italiens ont décidé ça il y a longtemps. Oui. Bon, l'Italie n'est pas un pays antisocial.
L'Italie, c'est quoi, 60 jours ?
Mélanie, elle est pas...
60 jours en Italie, 60 jours en Italie.
On doit pouvoir y arriver. Et en plus, le point, c'est qu'on est dans un domaine de secteur public, en plus. C'est même pas... Là, il s'agit... Tout à l'heure, on parlait des négociations entre le patronat et les organisations syndicales dans le secteur privé, pour le coup. Là, on est dans le secteur public. Donc, normalement, l'État devrait pouvoir mettre bon ordre là-dedans. Bon, je crois pas qu'on va attenter à la Constitution ni à la démocratie si on imite le modèle italien, moi.
On suspend la Constitution 30 jours, quoi. C'est ça que ça
non,
veut
mais
dire.
Là,
suspend le droit de grève 30 jours.
Je veux dire, on peut pas mettre dans l'angoisse tout le monde, là, à chaque départ en vacances, en permanence, et puis créer un bazar pas possible. Juste, comme il a raison sur un point, c'est quand même, on voit bien que maintenant, c'est des revendications catégorielles qui passent à côté des syndicats, qui plus est, il y a quand même un énorme problème.
Et on maltraite les gens dans les bois. Donc si on les traitait autrement, c'est le même sujet.
Jean-Marc Sylvestre.
Non, mais je crois qu'on est en train d'entrer dans un débat que la France adore, que les Français adorent, qui vont agiter. Bon, alors si on met entre parenthèses l'histoire des Jeux Olympiques, où on pourrait très bien réquisitionner, enfin faire en sorte que ça fonctionne, quoi. Je crois que le problème, c'est qu'il n'y a de grève que dans les services publics, il n'y a de grève que dans les monopoles. Principalement que dans les monopoles. Et pour qu'il y ait moins de grève dans les monopoles, il faut introduire de la concurrence dans ces monopoles, et peut-être regarder quelles sont les protections dont bénéficient les salariés de ces monopoles.
Il y a plein de grèves dans les petites boîtes pour les salaires, et notamment ces deux dernières années.
Si ça marche.
Donc c'est pas vrai qu'il y a des grèves que dans les services publics, c'est pas vrai. Simplement, ça se voit plus.
Écoutez, s'il y avait, franchement, dans des secteurs qui sont en concurrence, franchement, il y a quand même moins de problèmes.
Il y a les raffineries, qu'est-ce qu'on a eu encore? Bon, de temps en temps, il y a les éboueurs à Marseille.
Et d'ailleurs, quand il y a des grèves chez les bus, c'est parce que c'est des privatisations de bus aussi, donc c'est du privé.
Je rappelle que dans la proposition de loi initiale, on devait inclure le secteur aérien, que ça a été écarté parce que vous avez deux syndicats, un syndicat d'hôtesses et stewards et un syndicat de personnel au sol, qui appelaient à la grève justement les 15 et 16 avril, c'est-à-dire la semaine prochaine, deux jours, pour protester justement contre le fait que le secteur aérien serait associé à cette proposition de loi.
Et quand Lufthansa est en grève,
si on dit aux gens, vous pouvez vous défendre, sauf les jours où ça sert à quelque chose de vous défendre. Ça va pas. Oui, alors, c'est qu'il y a quelque chose à prendre autrement.
Les jours
où on est interdit, défendre pourquoi et quoi et pour
encore,
qui
en, encore, c'est en ça qu'on discute. Pays démocratique en Europe, où ce problème ne se pose pas de cette manière-là. Donc,
Mélanie au pouvoir, c'est une crypto-fasciste. Donc, si t'es là, Italie, c'est une petite erreur.
Négocié avant. Non, je suis désolé.
Ça a été négocié avant.
Oui, c'est négocié. Ça fait partie de la montée du fascisme en Italie.
Non, je crois pas.
Ah si.
Mais non, ça a été négocié.
Elle n'était pas née, enfin.
Et sur les seuls jours. Sur les seuls jours concernés, ça ne concernera que les heures de pointe. Hein. Voilà, je précise aussi, voilà, un garde-fou.
Mais non, mais tu vois, c'est n'importe quoi.
Bon, enfin, en tout cas,
c'est effectivement pour ajouter le débat. Là, Jean-Marc Sylvestre a raison.
Cette proposition de loi a été adoptée tout à l'heure au Sénat. Elle a a priori peu de chance. Le gouvernement a dit non de passer du côté de l'Assemblée, même si vous entendez quand même certains députés de la majorité au sein de la... Pas la gauche, mais certains de la majorité qui disent « Ah, pourquoi pas ?» Maud Bréjean, par exemple, qui dit...
Mais ce qui n'empêche pas que les gens souffrent dans les services publics et dans les transports. Mais et donc c'est ça, là. Mais le débat, il devrait être celui-là. Atténuer la souffrance dans les transports.
Le débat, il devrait être le dialogue social au sein de l'entreprise.
Atténuer la souffrance dans les transports, dont le dialogue social est un élément.
Allez, 3 minutes, c'est l'heure de l'extra time, comme tous les soirs, vos humeurs du jour, coup de gueule ou coup de cœur sur 30 secondes. C'est la règle non écrite, mais elle est ainsi exprimée. Bah, Frédéric, tiens, puisque vous aviez la main, est-ce que vous voulez commencer? Allez, 30 secondes, Frédéric.
Alors, s'il y a la caméra qui peut zoomer dessus.
Allons-y, on est dessus.
Voilà, mon coup de gueule, c'est sur le coût du capital. Les prélèvements du capital sur les entreprises, en proportion de la valeur ajoutée, ils ont considérablement augmenté. Alors, il y a un pic durant la crise financière, ça redescend un peu, mais ça reste considérable, alors que les cotisations sociales, elles sont stables en part de la valeur ajoutée, elles baissent même sur les entreprises non financières de 1970 à aujourd'hui. Donc alors, de quoi faut se préoccuper? Les prélèvements du capital ou les cotisations sociales? Moi, ma réponse, c'est que quand même, il y a une vraie question de société. Ça ne veut pas dire que les réponses sont simples, mais là, il y a un vrai enjeu sur le coût du capital qui tend tout le corps social.
Démonstration, je suis rappelé. À quand le grand soir, finalement?
C'est ça, non, ce n'est pas un grand soir. C'est un processus long de débats et de réponses.
Voilà pour le coup de gueule de Frédéric Bocara. Ce soir, Bruno, non, qui commence? Allez, Jean-Marc, allez.
Ça va pas vous surprendre, donc bon, c'est un coup de cœur.
Ouais.
Pour Bruno Le Maire.
Oh.
Parce que moi,
je l'ai pas vu venir.
Je trouve particulièrement cocasse et injuste. Il est ministre de l'économie depuis 7 ans.
Oui.
Pendant presque 6 ans, on l'a salué, on l'a félicité, on l'a béni de pouvoir trouver sur les marchés financiers internationaux tellement d'argent pour le quoi qu'il en coûte, pour satisfaire un certain nombre de revendications. Et depuis un an que la conjoncture s'est retournée, eh bien, il va être considéré comme le principal responsable, pour ne pas dire coupable, de la dette et du déficit.
Il est en campagne.
Il n'est que directeur financier, et comme tous les directeurs financiers dans les grandes organisations, bah, il répond aux stratégies qui sont définies en général par le conseil d'administration, c'est-à-dire le gouvernement et le président.
Coup de gueule.
Cocasse quand même, c'est la BCE, c'est pas Bruno Le Maire qui a trouvé l'argent du quoi qu'il en coûte, c'est la Banque Centrale Européenne.
Allez, voilà.
Il faut un nouveau quoi qu'il en coûte pour les services publics.
Bruno Le Maire, de Jean-Marc Sylvestre ce soir. Bruno Coquet, c'est à vous, 30 secondes.
Oui, j'ai laissé parler Jean-Marc, parce que moi, c'est le contraire. En fait,
ah, c'est un coup de gueule.
Le chef qui est le président de la République a un motif de licenciement du directeur financier, et le directeur financier a, lui, des motifs de démissionner. Pour le moment, l'un et l'autre ne bougent pas, donc c'est qu'ils ont quand même un intérêt commun. Cela dit, moi, je pense qu'on ne peut pas dire à la fois, parce que Bruno Le Maire était complice du peuple français, en l'occurrence, en disant ben oui, c'est moi qui fais tout, et donc, du coup, après, il a une difficulté à dire que c'est pas lui
qui est responsable. Il a prévenu, quand même. Il a prévenu. Hein. Il a fait un livre pour prévenir.
Oui, enfin, je ne sais pas si c'est une fiction ou...
Oui, mais il est en campagne. Alors, pourquoi je ne sais pas, mais il est en campagne.
Alors, peut-être qu'il est en campagne.
Il y a des postes à Bruxelles. Il y a des postes à Bruxelles.
Bien sûr.
Voilà, il y a un haut représentant. La France ne l'a jamais eu.
Eh oui. Voilà, bien, c'est terminé pour ce soir. Merci, messieurs, d'être venus. Frédéric Bocara, économiste, membre des économistes atterrés. Jean-Marc Sylvestre, éditorialiste à Atlantico. Bruno Coquet, docteur en économie et chercheur associé
à l'OFCE. Merci messieurs, à très vite, avec plaisir pour nouvelles aventures. 19h56, dans un instant 20h, Tech & Co, François Sorel. On se retrouve demain 18h pour nouvelles aventures. Bonne soirée, à demain.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.